Bien, il est 16 heures. Nous pouvons commencer avec les vœux rituels au début de cette année, et en rappelant qu'il y aura donc un séminaire aujourd'hui, puisque nous y sommes, et puis la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je voulais continuer l'examen, puisque le cadre général, c'était comment lire un texte, des propositions pour la lecture des textes. On a au premier trimestre suivi un certain nombre de pistes, apportant un accent sur certaines formes d'approche des textes qui ont été particulièrement développées dans le monde anglais et américain. J'avais évoqué le New Criticism et ses relations possibles avec la Nouvelle Critique, une forme d'approche des textes qui est focalisée sur le fonctionnement du langage impersonnel, automatique, et qui donc du coup prive l'auteur de sa souveraineté sur la signification inscrite dans le fonctionnement poétique, rhétorique, discursif. Et puis nous avions examiné l'approche new historicist, c'est-à-dire ici le processus de création de l'œuvre esthétique, en particulier littéraire, mais pas seulement, comme le résultat de négociations, de transactions avec les discours et les pratiques ou les rituels du monde social transférés sur un registre esthétique par l'opération de création intellectuelle, artistique ou littéraire. Ce sont deux éléments essentiels de ce que l'on avait pu analyser au premier trimestre. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, j'aimerais, pour compléter ce triangle entre New Criticism, New Historicism, porter l'attention sur les approches qui s'intéressent fondamentalement aux significations liées au mode d'inscription du texte sur la page ou sous tout autre support de l'écriture. Ce qui a pu être dans un premier contexte, celui des années 30 à 50, défini dans le monde de la bibliographie comme la new bibliography, et qui aujourd'hui pour nous, à la fois en s'appuyant sur les acquis de la new bibliography, mais en même temps en proposant des perspectives d'analyse critique beaucoup plus riches, ce qui est identifié à l'auteur et au livre dont je parlais plus tôt aujourd'hui, Donald Mackenzie, La bibliographie et la sociologie des textes, Bibliography and the Sociology of Text, qui, on le verra, est un livre formé à la fois de trois conférences données par Mackenzie en 1985 à la British Library, dans la série des Panizzi Lectures, et d'un texte qu'il avait consacré, étant lui-même néo-zélandais, à une analyse du traité par lequel, au milieu du XIXe siècle, les chefs maoris des îles de Nouvelle-Zélande reconnaissent ce qui, dans le texte anglais, est défini comme la sovereignty, la souveraineté de Sa Majesté gracieuse sur la Nouvelle-Zélande. Et pour moi, c'est ce lien assez inattendu entre trois conférences qui portent fondamentalement en tant qu'objet sur la littérature anglaise des 16e, 18e siècles, les exemples venant de la tradition shakespearienne, de l'analyse de Congreve, et d'autre part, ce texte qui est une mise en œuvre pour déchiffrer des relations de domination dont le présent est directement héritier, me paraît exemplaire d'une approche des textes qu'on retrouverait pas seulement chez Donald Mackenzie, mais aussi chez un historien de l'écriture comme Armando Petrucci en Italie. Et je vais porter l'attention essentiellement sur la définition que donne Mackenzie de la sociologie des textes, puisqu'il propose un instrument de lecture, d'interprétation, de déchiffrement des textes que nous n'avons rencontré ni avec les approches formalistes et linguistiques du New Criticism ou de la Nouvelle Critique, ni avec l'approche New Historicist qui porte essentiellement l'attention sur les captures de discours et de pratiques par le processus de la création esthétique. Alors ce livre de Mackenzie, qui avait d'abord été publié seulement sous la forme des trois conférences des Panizzi Lectures, a connu dans ces dernières années un grand écho ou succès. Il avait été traduit en français dès 1991. Il y en a une traduction en italienne, puis une traduction espagnole. Et c'est d'ailleurs pour cette traduction espagnole que j'ai repris le dossier du travail de Mackenzie en proposant des interprétations qui n'étaient pas nécessairement celles proposées en 91 dans la traduction française. Alors, qu'est-ce qui fait le point essentiel, me semble-t-il, de l'apport qu'on peut définir comme une sociologie des textes et qui est au croisement de la bibliographie matérielle ou analytique, de la critique littéraire et d'une forme d'histoire socioculturelle, c'est, je crois, au point de départ, deux idées essentielles qu'on trouverait dans les Panizzi Lectures, mais qui étaient en quelque sorte un défi ou une mise en question de vue acceptée. La première idée, c'est une extension du concept de texte, et en particulier en défaisant le lien qui, dans la tradition occidentale, existe entre texte et livre. Et pour Mackenzie, cette extension peut prendre deux formes, c'est-à-dire les non-book texts, ce monde des écrits à la main ou des textes imprimés qui ne sont pas des livres, et dont on a déjà dit l'importance économique. Beaucoup d'imprimeries n'ont jamais imprimé un seul livre dans les sociétés d'Ancien Régime, mais étaient au service de cette publication de ce qu'on appelle en français travaux de ville, en anglais job printing, c'est-à-dire formulaires, quittances, affiches, avis. Toutes ces publications demandées d'abord par les institutions, puis progressivement, de plus en plus, par les individus. Donc prendre en compte ces non-book texts qui font économiquement souvent l'essentiel des revenus de l'imprimerie et qui font culturellement ou intellectuellement apportent la modification des relations entre les institutions et les individus ou entre les individus entre eux. Tout cet ensemble d'imprimés qui sont des imprimés éphémères conservés en très petit nombre alors que leur production était évidemment immense. On peut penser par exemple aux indulgences imprimé, puisque si Gutenberg est attaché à la Bible de Gutenberg, il est fondamentalement aussi attaché à une publication imprimée d'un document antérieur, mais qui a cette forme de l'imprimé laissant des blancs pour une écriture manuscrite, qui est l'écriture de la signature, qui est l'écriture de la date, qui est l'écriture des noms propres. Ce qui a pu d'ailleurs conduire à penser que l'effet fondamental de la révolution de Gutenberg, si révolution il y a, c'était la multiplication des écrits à la main, ou la multiplication des lieux et des occasions où l'écriture manuscrite est demandée, puisque ces non-book texts, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, sont des documents qui sont marqués par la présence de blancs en attente d'une écriture manuscrite. On a donc cette première donnée, cette première évidence qui est de détacher livres et imprimés puisque de très nombreux imprimés ne sont pas des livres. Mackenzie pousse plus loin l'argument en parlant ou en pensant à l'existence de non-verbal textes, c'est-à-dire des textes qui n'emploient pas les ressources du langage, ou du moins du langage oral et écrit, mais qui, comme l'image, la carte, la partition, le territoire lui-même, lorsque le territoire est investi de significations qu'une communauté lui a données, peuvent être désignés aussi comme des textes dans la mesure où, dans tous les cas, il existe une relation entre des signes organisés comme un système et, d'autre part, des significations qui sont organisées, elles, par des conventions permettant la production du sens. L'idée donc que le langage verbal, qu'il soit proféré ou inscrit, n'est pas le seul qui soit de nature sémantique. Alors là, on voit évidemment que l'on est devant une extension de la notion de texte qui à la fois peut conduire à penser des systèmes sémantiques qui ne seraient pas organisés à partir du discours, qui pourraient éventuellement aussi courir un risque, dont Mackenzie était tout à fait conscient, courir le risque que l'on a vu quelquefois développé avec cet usage, voire cet abus de la métaphore de la textualité, considérant que toutes les productions symboliques sont des textes, mais pas comme le faisait Mackenzie, mais en les ramenant, en les étouffant ou écrasant sous la logique du discours. Alors qu'évidemment, dans la perspective de Mackenzie, ce n'est pas parce que l'on considère qu'il y a des non-verbal textes que l'on considère que la logique de leur production ou de leur déchiffrement est nécessairement identique ou unique en rapport avec la logique de production et de déchiffrement des discours. Et à partir de cette distinction, l'essentiel devient la reconnaissance des logiques propres, des mécanismes spécifiques qui régissent la construction du sens dans telle ou telle de ces formes symboliques, pas nécessairement discursives, mais considérées comme des non-verbal texts. C'est une protection contre une projection excessive de la métaphore du texte sur le monde social, le territoire, les pratiques. Donc, un double élargissement de la notion de texte qui, évidemment, était un premier défi ou challenge pour les définitions classiques de la bibliographie matérielle pour qui, effectivement, le texte est identifié avec le livre ou avec l'objet imprimé qui a forme de livres. La deuxième idée essentielle, souvent citée de Mackenzie, mais qui peut inspirer notre lecture des textes, c'est évidemment celle qui attribue une fonction expressive à des dispositifs matériels du texte, non pas son contenu discursif, mais ses formes de l'inscription, pas seulement sur la page, dans un objet écrit ou imprimé, mais aussi dans les différentes formes de son oralisation, lecture, profération, déclamation, ou encore dans sa représentation lorsqu'il s'agit d'un texte qui est donné sur une scène, celle du théâtre étant la plus évidente, mais aussi on peut penser à d'autres scènes, comme la scène du tribunal ou la scène de l'église, pour la plaidoirie ou pour le sermon. Chacune de ces formes de publication est organisée selon des dispositifs propres qui contribuent, ouvrent ou limitent, façonnent ou contraignent la production de la signification. Et je crois que c'était là un apport, on va le voir, absolument essentiel, à la fois contre une approche purement linguistique qui inscrivait la production du sens dans le fonctionnement du langage, mais d'un langage détaché de toute forme de matérialité. Et c'était aussi une résistance par rapport à des approches classiques de la critique littéraire qui portent peu attention à ces dispositifs de la matérialité du texte qui commencent avec le format du livre ou sa typographie, mais qui mettent en jeu, au-delà même des protocoles de description bibliographique, les structures de la mise en page, le découpage des textes, la présence ou non des blancs, et dans la matérialité du texte aussi, l'usage de la ponctuation ou l'usage des différentes cases, des différents types de caractères. Alors, l'idée fondamentale était « les formes affectent le sens ». C'est presque une sentence qu'on a extrait du travail de Mackenzie. Et avec ces deux corollaires, le premier, c'est que ces formes qui affectent le sens peuvent être attribuées à de multiples acteurs dans le processus de publication d'un texte, elles ne sont pas le plus souvent le résultat d'une volonté d'auteur, au moins pour les périodes de la première modernité, entre XVIe et XVIIIe siècle, mais elles impliquent tous ceux que nous avons rencontrés, et dans le cours et dans ce séminaire, et qui font qu'un texte autographe devient une page imprimée, c'est-à-dire les décisions qui sont prises par le libraire-éditeur, le maître imprimeur, les correcteurs, au sens anglais de copy editor, et les compositeurs, au sens de typographe. Et tous participent de ce façonnement de la forme, mais d'une matérialité qui n'est pas seulement une matérialité externe, comme on pourrait dire, du corps du livre, mais qui est une matérialité qui est déjà celle de son âme, pour reprendre une métaphore que j'avais citée, empruntée à Alonso Victor de Paredes. Il y a donc là une ouverture vers la conception de la production textuelle, et pas simplement de l'objet, mais de la production textuelle comme collaborative, avec les possibles contradictions entre les décisions ou les habitudes de tel ou tel des acteurs ou des agents impliqués dans ce processus de publication. L'autre corollaire, c'est le fait de penser que même si cela est dans l'inconscient du lecteur, ces dispositifs matériels contraignent la réception, l'interprétation, l'appropriation. Et on voit que contre toute approche purement formaliste au sens linguistique ou sémiotique du terme, ce que propose Mackenzie, c'est de rappeler avec force que les formes graphiques, les modalités d'inscription, la matérialité du texte jouent un rôle décisif, essentiel, dans de la construction du ou des sens que son ou ses publics peuvent lui donner. Et on est là face à la définition de ce qui est pour lui la sociologie des textes. Le thème le plus fondamental était ainsi résumé. Pour lui, la sociologie des textes est la bibliographie, mais une bibliographie investie par cette attention à la dimension de l'inscription du texte sur la page, et ainsi définie la discipline qui étudie les textes as recorded form, dans leur forme inscrite, conservée, et les procès de leur transmission, ce qui inclut leur production et leur réception. On voit donc qu'il y a là une définition nouvelle de la bibliographie qui déborde de beaucoup celle qui avait été soit la bibliographie traditionnelle, soit la new bibliography des années 30 à 40, et qui ouvrait un espace pour identifier la bibliographie non pas and the sociology of text, mais as sociology of text, la bibliographie comme sociologie des textes, prenant en compte ce processus qui va depuis la production jusqu'à la réception en passant par la transmission des textes et qui étudie les marques ou les traces laissées par ces processus dans le texte comme recorded form, c'est-à-dire dans le texte comme disponible dans une forme inscrite. Du coup, on voit que la réaction de ce qui a été défini dans les années 30 et 40 par une tradition qui était celle de Gregg, de McKerrow, de Bowers, comme New Bibliography, se trouve bousculée. Parce que dans cette tradition, il y a évidemment une attention à la matérialité du texte. Il s'agit d'analyser les exemplaires conservés des éditions, si possible en travers, grâce à une formule de description, de collation la plus rigoureuse possible, et qui porte l'attention essentiellement d'ailleurs sur la composition et l'assemblage des différents cahiers qui composent un livre ancien. Mais cette perspective de description bibliographique et au service d'un projet qui est tout à fait différent de celui de Mackenzie. Il s'agit fondamentalement et peut-être paradoxalement de pouvoir détecter dans le texte as recorded form, dans sa forme imprimée, quelles ont été les interventions assez immédiatement pensées comme des altérations ou des corruptions introduites par les différents agents de la production du texte qui ne sont pas l'auteur. Et donc, comment on peut attribuer des variantes graphiques ou des décisions de ponctuation à des compositeurs ou à des correcteurs, avec cette idée qu'il faut pouvoir éventuellement restituer en neutralisant, parce qu'on les a détectées, ces interventions de l'atelier typographique, de remonter à ce que dans la New Bibliography on appelle the ideal copy text, la copie idéale, et qui serait la plus adéquatement proche de ce que l'auteur a voulu, à composer, à dicter, et peut-être à la limite même à rêver ou imaginer. Ce qui, dans cette perspective, permet de définir cet ideal copy text comme celui qui était dans l'esprit de l'auteur, comme une sorte de ideal concept. Et donc, c'est la bibliographie matérielle vouée, comme on l'a vu dans beaucoup de séminaires, à la seule source disponible, les livres imprimés, en l'absence, avec de très rares exceptions, de documents sur le processus et de production de l'œuvre et de publication du livre, reconstruit à partir de ce savoir qui peut donner à comprendre l'histoire de la publication typographique de telle ou telle œuvre, reconstruit ce qui est à attribuer à l'atelier, au compositeur et au correcteur, et donc du coup de pouvoir s'approcher au plus près de ce qui est à jamais perdu, c'est-à-dire le manuscrit tel que l'auteur l'aurait établi et authentifié. C'est là la perspective de la New Bibliography. Je dis qu'elle est paradoxale, puisque inscrite fondamentalement dans une analyse des objets imprimés, ce qui est finalement son vœu, son dessein, son désir, c'est de reconstruire imaginairement ce texte idéal, supposément altéré ou corrompu par le travail de l'atelier. Alors, pour mener à bien ce travail, qui, comme vous le savez ou le comprenez, est né fondamentalement sur des textes de l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles, plus particulièrement encore le théâtre et plus particulièrement encore les éditions de Shakespeare, une telle approche, qui a multiplié des études érudites, dont on trouverait de tout à fait nombreux exemples dans des revues spécialisées comme Studies in Bibliography ou les papiers de la American Bibliographical Society, avait deux postulats contre lesquels Mackenzie propose la sociologie des textes. Le premier postulat, c'est une distinction fondamentale dans la New Bibliography entre le substantives et accidentals. C'est-à-dire accidentals, ce sont toutes ces variations qui résultent du travail de l'atelier et qui sont liées à des préférences, à des erreurs, à des habitudes des compositeurs et des correcteurs. Et substantive, c'est l'œuvre dans son essence, telle qu'elle a été écrite, dictée, désirée par son auteur. Et donc, du coup, on a une dichotomie radicale entre les états de texte et l'essence de l'œuvre, et on a une dichotomie radicale entre des accidents qui sont considérés comme étrangers, indifférents ou dommageables pour l'œuvre, et d'autre part, ce qui serait l'essence fondamentale, l'identité essentielle de cette œuvre. Contre cette perspective, évidemment, Mackenzie montre que les états de texte sont ceux qui ont été lus par les lecteurs, et que donc, du coup, il est vain de rechercher cette œuvre identifiée à un concept idéal. En revanche, il est fondamental de comprendre comment de multiples interventions ont donné sa forme à cette œuvre dans ses différents états. Et le Ideal Capitext est une illusion que la critique textuelle doit abandonner pour, au contraire, percevoir la mobilité, l'instabilité d'une œuvre dans ses multiples états textuels. Et c'était là, évidemment, ouvrir un espace, non seulement pour la critique, non seulement pour une histoire des réceptions, mais aussi pour une histoire de, enfin pour des pratiques de l'édition. On peut dire d'ailleurs que, paradoxalement, dans un sens, les pratiques éditoriales qui sont nées, qui se sont appuyées sur le savoir de la bibliographie analytique, se sont trouvées durablement divisées entre des pratiques d'édition des textes qui visaient, comme je le disais, à essayer de retrouver derrière les interventions ou altérations de l'atelier d'imprimerie l'intention auctoriale. Et donc, de ce point de vue-là, on parlait de author-centered, focalisé sur l'auteur d'une pratique de l'édition. Et c'est le but de Gregg, de Bowers, de McKerrow, c'est de s'approcher au plus près d'une édition qui serait fidèle à l'intention auctoriale et par le cheminement à travers ce qui a pu la blesser ou la déformer. Et avec Mackenzie, parallèlement à Mackenzie, un auteur important est Jerome McGann, une autre pratique de l'édition qui essaye de faire que l'édition aujourd'hui d'un texte ancien absorbe des éléments que McGann définissait comme « the institution of publishing », c'est-à-dire ces éléments qui sont liés à l'édition et à la publication, voire même en prolongeant du côté de les formes de la réception et de l'appropriation du texte. Alors, cette tension a pu donner lieu tout à fait concrètement à des éditions des textes anciens extrêmement différentes, les premières pouvant très souvent avoir la nature d'une modernisation et d'une conflation entre différents états de texte considérés comme étant le résultat le plus proche possible de l'intention d'auteur, les deuxièmes pouvant amener à la publication de plusieurs états de texte pour la même œuvre. Et j'ai souvent cité, pour les éditions shakespeariennes, ce point de rupture premier qui a été, dans le Shakespeare d'Oxford, la décision de publier deux Rois Lear. C'est une même œuvre, elle a un même titre, et c'est deux états du texte suffisamment différents dans leur logique de composition et de publication pour que l'une et l'autre soient publiées. Et à partir de ce chemin a été ouvert la pluralité de publications d'une même œuvre dans ces différents états de texte, non seulement pour Shakespeare, où, par exemple, on peut publier les différents quartos et aussi le texte de l'Infolio, c'est le cas d'Hamlet, où il y a trois états de texte de 1603, 1604-5 et 1623, ou même pour d'autres auteurs, et l'édition récente des œuvres de Middleton est aussi fondée sur cette idée de donner à lire aux lecteurs d'aujourd'hui la pluralité des textes qui étaient des formes de représentation d'une œuvre, mais cette œuvre étant comme un point de fuite insaisissable, n'existant pour ses lecteurs anciens ou pour les lecteurs d'aujourd'hui qu'à travers les différents textes dont se sont emparés ces lecteurs. Vous voyez, cela a des conséquences considérables, parce que quand vous menez une analyse pour savoir quel a été, par exemple, l'impact, je sais pas, de la nouvelle Héloïse ou du Roi Lear et ses réceptions ou ses appropriations, et encore plus si vous êtes au XIXe siècle avec des formes de romans publiés de multiples manières, depuis les feuilletons dans le journal jusqu'aux publications par livraison et jusqu'aux livres pour cabinet de lecture ou bien des anthologies romanesques, la première question à poser, c'est celle de savoir non pas que l'œuvre a été lue, mais quel état de texte de cette œuvre a été lu? Et parfois, la distance peut être immense, puisque, par exemple, pour les romans du XVIIIe siècle, comme ceux de Richardson, mais aussi pour Don Quichotte, j'avais étudié cela pour l'Angleterre du XVIIIe siècle, il y a des formes abrégées. Des formes abrégées qui peuvent aller depuis en respect pour les structures de l'œuvre, mais dans une forme réduite, jusqu'à des réécritures qui réécrivent Pamela ou qui réécrivent Don Quichotte en 24 pages. Donc la question première, elle est de poser la question de l'état de texte. Et très souvent, et l'histoire culturelle et la critique littéraire passent par-dessus cette question. Et suppose implicitement et de manière erronée que les lecteurs du passé ont lu ce que nous lisons quand nous disons que nous avons lu Don Quichotte ou, si on en a le courage, Pamela et Clarissa. Donc il y a là une conséquence absolument immédiate. C'est pourquoi je pense que ce type d'analyse que je mène aujourd'hui a des effets immédiats pour n'importe quel article ou thèse ou livre que chacun de nous écrit. Sur la citation. Décidez quel est l'état de texte que vous citez et que vous identifiez avec l'œuvre. Mais si on le fait avec une perspective historique, évidemment, avec la justification de citer tel ou tel de ces états de texte. Donc il y a là une première distance prise par rapport à la New Bibliography par la sociologie des textes, ici portée par Mackenzie, qui est de mettre en question radicalement la différence entre substantive et accidental, considérant qu'il n'y a pas de possibilité d'établir cette dichotomie et que l'œuvre n'existe que dans ces états de texte. Donc la substance est elle-même accidentelle, ou les accidents sont la substance. Le deuxième élément plus technique que la New Bibliography avait apporté pour pouvoir déchiffrer comment le processus de publication pouvait affecter l'œuvre telle que l'auteur l'avait désirée, c'était d'entrer dans l'atelier typographique et de postuler à la fois une rationalité et une régularité des pratiques. Ce qui amenait à penser que chaque typographe chaque compositeur, c'est le mot anglais, hein, compositeur, componedor en espagnol ou compositeur en français, le mot de l'ancien régime, mais qui désigne l'ouvrier typographe, travaillait sur un seul texte à la fois et que tout d'abord dans les ateliers existait une stabilité d'association entre un compositeur et sa casse de caractère lui permettant de composer typographiquement sa copie, et une presse. Et donc, on y avait un système à la fois rationnel et régulier. Et Mackenzie, qui met au défi un certain nombre des conclusions de la nouvelle bibliographie, mais à partir d'une compétence au moins égale à celle des New Bibliographers, a pu montrer, en étudiant des archives d'imprimerie, fondamentalement une archive qui était celle de la presse de l'Université de Cambridge pour la fin du XVIIe et les débuts du XVIIIe siècle. C'est une étude monumentale de la Cambridge University Press, 1696-1712, puisque là, la comparaison qu'établit Mackenzie, c'est entre les ouvrages existants tels qu'ils ont imprimés par la presse et les archives de la presse qui permettent de reconstituer le processus de publication. Et ensuite, pour d'autres imprimeurs du XVIIIe siècle, il a pu retrouver aussi des archives du processus de publication, celle de Boyer et celle de Hackers, et toutes ont convergé vers le même résultat, qui était de détruire ce monde parfait régulier et rationnel de l'imprimerie telle que la New Bibliographie l'imaginait. D'abord pour montrer que chaque compositeur travaille sur plusieurs ouvrages à la fois, et ceci est aussi lié au point que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'atelier d'imprimerie doit à la fois mener à bien des projets de relativement longue haleine, par exemple si on pense à l'impression d'un livre comme le Folio de 1623, mais en même temps doit répondre à une demande immédiate pour des job printing, pour des travaux de ville. Et donc les compositeurs passent de la composition d'un ou plusieurs livres à la composition d'affiches, de billets, de prospectus, de faire-part, de quittances, etc. Et d'autre part, il a montré qu'il n'y avait pas un lien entre une casse et une presse, mais que les presses recevaient les formes, c'est-à-dire l'ensemble des pages qui sont composées et qui vont être imprimées du même côté de la feuille quand elles sont composées. Et donc, il y a une instabilité de la relation entre un compositeur et un pressier. Et si l'atelier, évidemment, comme on le suppose, a plusieurs presses. Et on peut même ajouter que dans cette sorte de démantèlement de ce qu'il avait appelé, c'est un article fameux, Printers of the Mind, c'est-à-dire des imprimeurs en esprit, des imprimeurs immatériels, purement des acteurs rationnels, qui étaient ceux construits par la New Bibliography. Il opposait la réalité concrète de l'improvisation, de l'urgence, de l'incohérence, du travail réel dans l'atelier. On peut même pouvoir aller plus loin, dans la mesure où un des fondements de l'analyse de la New Bibliography, c'était d'essayer de repérer quelle page, c'est-à-dire finalement quelle forme ou quel cahier un même compositeur avait composé dans l'ouvrage, par la récurrence d'un certain nombre des habitudes orthographiques ou d'habitudes de ponctuation, ce qu'on appelle des compositor studies ou des compositor analysis, qui pouvaient permettre de repérer, même lorsque l'on était en absence d'archives, ces individus n'avaient pas d'existence, autre que leur préférence pour mettre des virgules ou pour orthographier doux avec un E ou sans E, ou here avec deux E ou un seul E. Et donc, du coup, dans tous ces travaux de la New Bibliography, vous voyez la prolifération des compositeurs A, B, C, D, puisqu'ils n'ont d'existence finalement que de caractère. Du coup, cela permettait, par la récurrence dans l'ouvrage des mêmes formes graphiques ou orthographiques ou de ponctuation, de pouvoir comprendre combien de compositeurs y avaient travaillé, et d'autre part, de voir qu'est-ce que chaque compositeur désigné par cette lettre pouvait avoir composé, ce qui était une manière de neutraliser leurs préférences et du coup de ne pas attribuer à l'auteur, même si c'est le but fondamental, retrouver ce que l'auteur a voulu, de ne pas attribuer à l'auteur ce qui était en fait des gestes ou des décisions ou des habitudes de tel ou tel compositeur. Ce qu'a montré aussi Mackenzie, c'est que là, le travail dans l'atelier est un travail qui à la fois évidemment peut être fondé sur des préférences conscientes ou inconscientes que les compositeurs ont, et des habitudes, surtout dans une langue comme l'anglais, qui est très plastique, où l'on peut avoir de multiples spellings, de multiples formes graphiques pour le même mot. On peut détecter effectivement des habitudes ou des préférences. Mais en même temps, il y a des contraintes objectives dans les modes de la composition qui fait qu'habitude et préférence jouent peu par rapport à ce qui est les contraintes du processus même de publication. Sans entrer dans les détails, on a pu montrer que dans l'époque moderne, beaucoup de livres, il serait d'ailleurs intéressant d'en savoir exactement selon les lieux et les temps, les pourcentages, beaucoup de livres ne sont pas composés évidemment en suivant l'ordre du texte, mais sont composés par un mode de composition que l'on appelle par forme, c'est-à-dire par un calibrage premier du texte, repérant plus ou moins la quantité de texte qui va correspondre à telle ou telle page imprimée. Et une fois ce calibrage fait, casting off en anglais, ou la cuenta en espagnol, on peut commencer la composition indépendamment de l'ordre du texte, ce qui permet d'immobiliser moins longtemps les caractères, puisque évidemment, si vous êtes avec un livre in folio, vous comprenez immédiatement que sur ce côté-là de la page, je vais avoir la 1, 3, 4 et 8, et de l'autre côté, j'aurai, enfin 4, 5 et 8, et de l'autre côté, 2, 3 et 6, 7. Et à partir de ce moment-là, comme on composait la forme intérieure avant la forme extérieure, on peut commencer à composer toutes les pages qui seront imprimées du même côté de la feuille, mais qui ne sont pas la première de ce fragment de texte que l'on a pris en compte. Ce qui permet, évidemment, de défaire la composition pour récupérer les caractères avant d'avoir atteint la composition de la page 8. À partir de ce moment-là, on voit que cette technique de la composition par forme va être très forte dans l'Angleterre élisabéthaine, elle est très forte dans le cas des imprimeries espagnoles de l'époque moderne, qui étaient pauvres en police de caractère. Et le résultat est qu'évidemment, il faut que ce calibrage préalable ait été fait de manière rigoureuse. Sinon, lorsque le compositeur se trouve devant la composition de la dernière page, qui souvent d'ailleurs était la première du cahier, il peut ou bien avoir trop d'espace ou pas assez d'espace. Et vous pouvez voir dans des éditions anciennes les inquiétudes ou les décisions de ces compositeurs qui, lorsqu'ils arrivent à ce qui est la première page de ce cahier, mais qui est en fait la dernière qu'ils composent, ou bien n'ont pas assez d'espace et à ce moment-là contractent le texte avec des abréviations, suppression des blancs, s'il s'agit par exemple d'une page du folio, suppression des noms des personnages, réduction à leurs premières initiales, ou bien, s'ils ont trop d'espace, ce qui est décidé de changer la taille du caractère. Et subitement, vous voyez des caractères plus gros dans la composition qui n'ont aucune raison textuelle, mais qui ont une seule raison, qu'il faut occuper cet espace blanc qui a été laissé. Donc on voit que la composition par forme, la forme, je le rappelle, c'est ce châssis de bois dans lequel on met les pages qui vont être imprimées du même côté d'une feuille d'imprimerie. Mais comme les feuilles d'imprimerie apparaissent dans les livres sous forme de cahier après une ou deux ou trois pliures, évidemment, ces pages qui sont du même côté ne sont pas des pages qui se suivent dans le texte lui-même. Ceci implique des contraintes sur la composition que l'on ne peut pas rapporter à des préférences ou des habitudes des compositeurs. Donc, Mackenzie a détruit cette idée des printers of the mind, de ces êtres abstraits, de ces ouvriers désincarnés, pour restituer la... contre les modèles abstraits, une sorte de vide de l'atelier, l'irrégularité, l'improvisation, la complexité, et contre aussi un dogme de la New Bibliography qui était de déduire toutes les conclusions des exemplaires imprimés eux-mêmes, parfois jusqu'à récuser la pertinence des archives, pour lui de montrer que ce qui était important, c'était à la fois... Il était très influencé par la logique de Popper, de construire des hypothèses interprétatives, de les confronter avec des réalités empiriques. Et ces réalités empiriques, elles ne venaient pas seulement de l'examen des exemplaires imprimés, mais quand le hasard ou la chance de la conservation des archives le permettait, de l'analyse des archives elles-mêmes. Et c'est le cas pour la presse de Cambridge et pour ces deux imprimeurs du XVIIIe siècle anglais. C'est le cas aussi dans le XVIIIe siècle avec la société typographique de Neuchâtel qui a gardé tous ses livres de compte, non seulement pour le commerce du livre, mais pour la paye des ouvriers, et donc du coup a permis à Jacques Richner et puis ensuite à Robert Darnton de reconstruire, par exemple pour l'édition in quarto de l'encyclopédie publiée par la société typographique de Neuchâtel, le processus même du travail et confirmant les thèses de Mackenzie. Ce qui renvoie d'ailleurs à un aspect d'histoire sociale immédiate, c'est-à-dire que les ouvriers sont payés à la tâche, sont payés par le nombre de pages qu'ils ont composées ou qu'ils ont imprimées à la presse, et on voit une extrême irrégularité de leur rythme de travail, puisque dans un certain sens, ce serait gagner moins pour avoir plus de temps, et que lorsqu'ils considèrent que la somme d'argent qu'ils ont gagnée avec la composition ou l'impression d'un certain nombre de feuilles est suffisante, ils peuvent quitter l'atelier et donc interrompre pour une journée ou plus leur travail. Et on voit donc que cet élément d'irrégularité, il est aussi lié à des pratiques du travail dans lesquelles l'ouvrier imprimeur se pense comme dans une relation de liberté par rapport à l'emploi, ce qui fait que les maîtres imprimeurs se plaignent de ces ouvriers qui désertent les imprimeries sans demander de reste, soit parce qu'ils vont dans une autre imprimerie qui payera mieux, soit parce qu'ils veulent prendre un moment de répit à l'intérieur du rythme de travail. Mais on voit que les raisons pour cette irrégularité qui détruit le mythe des imprimeurs en esprit a de multiples raisons. Les unes sont techniques et les autres sont sociales. La conséquence de tout cela est que, pour Mackenzie, on ne peut pas analyser une édition particulière du point de vue des rythmes de sa composition et de son impression sans la resituer dans le travail de la totalité du travail de l'atelier au moment de cette composition et de cette impression. Et donc de penser que ce travail de l'imprimerie comme un tout organique et ne pas séparer, par exemple, l'impression du folio de Shakespeare dans l'atelier de Jaggard des autres ouvrages ou des non-book textes que ce même atelier imprimait au même moment. Et on peut étendre l'argument en essayant de penser comment la production d'un atelier particulier doit être référé à l'ensemble de l'activité d'imprimerie dans la ville à un moment donné. Et Mackenzie l'avait fait pour trois coups à Londres, 1644, 1668 et 1689, puisque là, on voit à la fois la relation entre la capacité de production et la production effective, et ce qui a souvent surpris, puisque l'on voyait normalement les presses, si on rapportait les capacités de production avec les production imprimée de livres, voire même de pamphlets, au sens anglais, c'est-à-dire des brochures, on voyait un énorme écart. Et cet écart est évidemment comblé par l'importance des travaux de ville, dont aucun trace, aucun témoignage bibliographique a été conservé dans l'immense majorité des cas. Et d'autre part, ça permet aussi de comprendre les aires de spécialisation de tel ou tel libraire-éditeur ou de tel ou tel imprimeur. Donc, on a une extension de la définition de la bibliographie à travers la sociologie des textes qui conduit à considérer dans un même mouvement d'interprétation production, transmission et réception, et qui consiste aussi à suggérer qu'il faudrait établir des protocoles de description pour des objets imprimés ou manuscrits qui ne sont pas des livres. Alors, la réflexion de Mackenzie, qui là met en question évidemment les dogmes fondamentaux tout en en étant héritière de la New Bibliography, pouvait avoir des conséquences. Certaines, je les ai souvent évoquées, qui renvoient au contexte dans lequel il avait donné les Panizzi Lectures en 1985, qui était le moment où la British Library devait quitter l'ancien site du British Museum pour se transférer où elle est actuellement, dans le bâtiment de St. Pancras. Et donc, une réflexion sur la bibliothèque et la bibliothéconomie, et avec ces deux éléments clés qui étaient d'une part de considérer que la responsabilité des bibliothèques était la conservation, le classement et la communication de multiples formes symboliques qui n'étaient pas seulement les objets manuscrits ou imprimés, ou du moins une gamme de tous les objets manuscrits et imprimés qui dépassaient la seule conservation des livres, mais aussi, même si on est en 85, c'est-à-dire avant l'explosion du monde numérique, l'ensemble d'autres documents, les documents sonores ou les documents visuels. Donc il y avait chez lui cette vision de la bibliothèque qui devait soustraire à la destruction les matériaux qui débordaient les objets classiquement pris en considération pour leur dignité par la bibliothèque. Et le deuxième constat, qui je crois aujourd'hui une pertinence très forte, c'est si l'on admet que les formes affectent le sens, et si l'on pense que le lecteur d'aujourd'hui doit pouvoir s'approcher des lectures du passé, c'est-à-dire comprendre les compréhensions, il devient absolument essentiel que les formes successives, les états de texte successifs d'une œuvre soient préservées, conservées et communiquées. Et évidemment, le contexte de cette observation était dans un certain sens prémonitoire. Il était prémonitoire par rapport à des destructions. Enfin, là, il n'était pas prémonitoire, il pouvait accompagner des politiques de destruction de fonds de bibliothèques dans les opérations de microfilmage. Et on sait comment la politique soit de la Library of Congress, soit de la British Library, de transférer sur microfilm dans les années 60-70 les collections, par exemple des journaux, a entraîné de fait, à la fois dans l'opération technique ou pour la volonté de vider les rayonnages, les magasins, la destruction et la perte des formes originales de publication de ces journaux. Et l'attention avait été évidemment appelée sur cette question en 2001 par un livre d'un romancier américain, Nicholson Baker, qui avait pour titre « Double Fold, Libraries and the Assault on Paper ». Il a commenté par Danton dans le New York Review of Books avec le titre « Le grand massacre des livres »,« The Great Book Massacre », qui était un écho à un essai fameux de Danton, « The Great Cat Massacre », qui était un rituel de massacre de chats par des compagnons imprimeurs près d'ici, rue Saint-Séverin, dans les années 1720. Et alors là, la question n'était pas celle du monde numérique, elle était simplement les politiques de microfilmage comme destructrices des collections, et ce qui évidemment prend une importance dramatique lorsqu'on est dans une perspective comme celle de Mackenzie, où les formes affectent le sens, et où le lecteur du journal de la fin du 19e siècle n'a pas lu une microfiche ou un microfilm. Et aujourd'hui, évidemment, c'est pour ça que je disais de prémonitoire, les construction des collections numériques qui ont, évidemment, ce serait absurde de penser qu'il s'agit d'une mauvaise chose, elles permettent un accès à distance, ont le même risque, et plus puissant encore, qui serait celui peut-être de la destruction dans l'opération de numérisation, lorsqu'elle est faite d'une manière peu soigneuse et peu attentive, et plus généralement, la relégation des collections imprimées avec cette croyance ou cette illusion curieusement partagé par la critique littéraire formaliste et certains milieux bibliothécaires, qu'un texte est toujours un texte indépendamment de sa forme, et que s'il est accessible en forme numérique, pourquoi s'encombrer de tous les tracas que pourrait amener la possibilité de sa consultation. Et donc, je pense qu'il y a là, dans la perspective de Mackenzie, qui a toujours porté beaucoup d'attention à la question des bibliothèques. Il était lui-même impliqué dans la... Il représentait la British Academy dans le conseil scientifique de la British Library, et par rapport à son origine néo-zélandaise, très impliqué dans l'administration des deux principales bibliothèques de Nouvelle-Zélande, la Turnbull Library et la National Library, qui se trouve à Wellington, qui était d'ailleurs sa ville natale. Donc on a un premier prolongement de ce socle théorique que j'essayais de montrer du côté de l'exigence de préservation et consultation des états de texte dans leur historicité, alors même que, évidemment, des politiques de production de substituts, moins les microfilms aujourd'hui et surtout les numérisations, peuvent en permettre un accès plus aisé. Mais les deux doivent aller de pair et non pas être considérées la seconde comme un substitut possible de la première. Et vous voyez, c'est là la trame de fond d'un certain nombre de débats, des discussions autour de Google or not Google. C'est pas, il n'y a pas l'aspect simplement de la question d'un patrimoine national et public donné et transféré à une entreprise privée. Mais il y a la question beaucoup plus fondamentale, me semble-t-il, de la nature même de la forme qui est donnée dans un monde ou dans un autre, numérique et imprimée au même texte, et qui justifie fondamentalement, sans doute, l'existence et la possible utilisation des deux, et non pas l'idée que le monde du numérique pourrait convertir et donc du coup faire effacer une première identité des textes qui, de ce fait, n'auraient plus de pertinence. L'autre perspective fondamentale qu'on peut suivre avec Mackenzie, qui nous rapproche de notre propos du séminaire, c'est comment lire les textes, c'est-à-dire comment comprendre le processus de la production de la signification. Et là, je pense que Mackenzie avait été dans une perspective dans laquelle ce qui était dominant encore en 85 de la critique littéraire était ce modèle qu'on a rencontré avec le New Criticism, avec Barthes et la Nouvelle Critique, c'est-à-dire une approche où les textes sont sans matérialité, puisqu'ils sont identifiés à leur fonctionnement linguistique. Ils sont sans auteur, ou du moins, s'ils ont un auteur, cet auteur n'a aucune importance pour la compréhension de la signification. Il n'a pas de souveraineté sur le sens. Et à la limite, ils sont sans autre lecteur que le critique littéraire qui fait naître du fonctionnement linguistique la signification, et en particulier une pluralité, une instabilité de signification. Et c'est contre ce paradigme que Mackenzie a à la fois proposé des études de cas, et puis j'y reviendrai, une critique que je trouve exemplaire des erreurs auxquelles peut conduire une telle perspective. Des études de cas, l'article plus fondamental qui est accessible dans un recueil qui a été fait des essais de Mackenzie et qui a pour titre Printers of the Mind, qui a été fait par deux de ses disciples, est un article qui était consacré à l'édition des œuvres dramatiques du dramaturge anglais Congreve en 1709-1710, une édition faite par un libraire-éditeur qui était Jacob Thomson, qui est fameux parce que c'est aussi l'éditeur qui détenait les copyrights sur Shakespeare, et d'autre part avec un maître imprimeur, John Watts. Et ce que voulait montrer Mackenzie par cette étude très méticuleuse de cette édition de Congreve, c'est que des transformations apparemment accidentales, qui n'auraient pas beaucoup d'importance, le changement de format, passer du quarto à l'octavo, le fait de numéroter les scènes dans l'édition, la présence d'un ornement entre chaque scène, une mention systématique du nom des personnages qui sont présents ensemble sur la scène pour faire une scène, l'indication des jeux de scène, tous ces éléments avaient un effet majeur à la fois sur la lecture de la pièce et sur le statut de la pièce. Sur la lecture de la pièce, parce qu'ils étaient une manière de récupérer dans l'écrit ce qui est le jeu de la scène. Et dans le cours de cette année consacrée au texte de théâtre, c'est un point que j'ai essayé de traiter assez fondamentalement, c'est-à-dire comment les dispositifs imprimés essayent de capturer, de conserver quelque chose d'une action que le lecteur n'est plus à même ni de voir ni d'entendre. Et évidemment, certains de ces dispositifs, par exemple les indications des jeux de scène, didascalie, ou une structuration de la pièce en scènes qui sont clairement identifiables, étaient une manière de rapprocher la lecture d'une posture ou d'une position de spectateur. D'autre part, comme le montre Mackenzie, cette manière de publier les pièces de théâtre était directement héritée du théâtre classique français et en totale rupture avec les éditions élisabéthaines ou des premiers Stuart, les quartos shakespeariens. Elle donnait du coup une dignité au texte ainsi publié qui a amené Congreve, pour cette forme-là d'impression, de publication, à intervenir sur ses propres textes et en supprimant ce qui était considéré comme contraire avec cette nouvelle dignité typographique, en particulier des passages licencieux qu'il considérait comme inadaptés à cette sorte de canonisation ou pour le moins de classicisation de ses propres pièces par cette forme typographique. Alors, cet article de 1977, très difficile à trouver pendant longtemps, parce qu'il avait été publié dans un recueil d'un colloque en Allemagne, mais republié dans cette Printers of the Mind, était absolument exemplaire, parce que, contre l'abstraction du texte, il montrait que sa matérialité pouvait avoir un effet décisif sur sa réception, mais aussi sur la relation de l'auteur avec son propre texte. Contre l'idée d'une absence de l'auteur, il montrait qu'avec d'autres, dans ce cas, Congreve contrôlant avec Watts et Thomson l'édition, il pouvait jouer un rôle dans le contrôle de ces effets de sens produits par la matérialité du texte. Et contre le lecteur réduit aux critiques, il montrait que les lecteurs du passé pouvaient avoir des relations avec un texte qui était modifié lorsque les dispositifs typographiques du texte étaient modifiés. Il y avait donc là une perspective de l'historicité de la production du sens qui était rétablie comme centrale dans une critique littéraire identifiée avec la critique textuelle. Alors, l'autre exemple que je voudrais prendre, c'était tiré, j'ai fait des photocopies, c'est tiré de la première des Panizzi Lectures. C'est un exercice que fait Mackenzie pour montrer que si on ne respecte pas la compréhension de ces dispositifs typographiques anciens, on peut faire dire au texte le contraire de ce que leur auteur avait impliqué dans le texte. Et il prend cet exemple, donc Congreve, dont il a finalement été l'éditeur, même s'il est mort avant d'avoir pu amener à bien toute l'édition. Et il fait un pont pour nous avec un séminaire que j'avais fait sur le New Criticism, en rappelant que l'origine était américaine, qu'elle était à l'intérieur d'une critique poétique, l'irréductibilité de la poésie à toute forme de paraphrase en prose et un fonctionnement linguistique du texte qui en était là le sens. Et j'avais rappelé qu'un article fondamental dans cette fondation de la nouvelle critique était cet article de Wimsatt et Beardsley qui a porté « The Intentional Fallacy ». Là, on pourrait dire, l'absence de pertinence de la raisonnement en termes d'intention. L'illusion auctoriale, l'illusion intentionnelle. L'intention n'est rien en rapport par rapport à ce fonctionnement linguistique qui produit la signification. Et Wimsatt et Beardsley, et qui donc déplacent la signification de la volonté d'auteur à une réception de lecture, ce qui est le prémonitoire ou préfigurant le fameux texte de Barthes. La mort de l'auteur, c'est sinon la naissance du lecteur, mais c'est du moins la naissance de la position de lecture. Et pour appuyer leur raisonnement, Wimsatt et Beardsley avaient cité ce prologue que vous avez sur la page d'une pièce de Congreve qui s'appelle « The Way of the World », qui a été publiée dans la fameuse édition, dans une édition de 1700, qui est antérieure, parce que c'est une édition quarto, à l'édition octavo de Thomson et Watts. Alors, on peut voir comment il l'avait cité. C'est la première citation, les caractères en romain en minuscule. Et si l'on traduit pour avoir une première idée de quoi il est question, on pourrait traduire comme cela. Il reconnaît donc l'auteur. « With toil », « toil », ça veut dire avec un effort intense, un travail acharné. « He wrote », il a écrit « des following scenes », les scènes suivantes, mais si celles-ci ne valent rien, if they are naught, never spare him for his pains, que l'on ne l'excuse pas pour ses peines. Au contraire, n'en soyez que plus, damnez-le encore plus, soyez encore plus intransigeant, n'ayez pas de commisération, n'ayez pas de pitié pour un ennui qui est celui de la lecture, qui est né d'une mûre réflexion. Bon. Alors c'était l'idée que Congreve avait anticipé le fait que la production du science était entièrement du côté de la lecture et que l'auteur, finalement, était absent de son texte. Et ce que fait remarquer Mackenzie, c'est qu'en citant ce texte, les auteurs, Wimsatt et Beardsley, l'ont profondément modifié, typographiquement. Et toute la démonstration, qui est extrêmement brillante, est de montrer que si l'on restitue la matérialité première du texte dans l'édition 1700, c'est tout le contraire que Congreve voulait montrer. C'était avec ironie qu'il décrivait ses lecteurs qui ne comprendraient pas le texte, et au contraire qu'il voulait insister sur la présence de l'auteur dans le texte, même si celle-ci pouvait être manquée par les lecteurs. Alors, ils le montrent d'abord par le fait qu'en copiant le texte, ils ont commis une première erreur, c'est-à-dire qu'ils ont écrit « he wrote », il écrit, et non pas « he wrote », qui est un verbe qui signifie « façonner avec soin », qui est un vocabulaire du monde plus artisanal que littéraire. Et donc, il y a une insistance sur l'idée que l'auteur a façonné son texte, a produit son texte comme un artisan produit un objet. Il y avait là un premier décalage entre une forme neutralisée, il a écrit, par rapport à une insistance sur le façonnement et qui pouvait avoir comme résonance toutes les métaphores de l'écriture qui renvoient au travail artisanal, qui renvoient à la main de l'auteur. Alors, donc, premier élément, une copie fautive. Il n'a pas, Congreve avait porté insistance sur ce façonnement du texte, ce modelage du texte par l'auteur. Ensuite, point qui, vous savez, m'est très cher, ils ont totalement modifié l'ordre d'usage des virgules. Dans l'édition de 1700, Congreve a écrit, il reconnaît, « Wistoil », entre comma, entre deux virgules, c'est-à-dire avec une insistance détachée. Et la traduction, c'est avec force travail, avec grande peine, avec un travail acharné qui doit être détaché par l'œil, comme le fait l'œil qui lit ce premier vers, et si vous lisez à haute voix, qui doit être détaché par la voix. Et en revanche, il n'y avait pas de virgule dans le deuxième vers, c'est-à-dire « mais si elles ne valent rien, que l'on n'excuse pas sa peine », comme si finalement il voulait porter l'insistance par la virgule de les virgules du deuxième vers qui ne sont pas dans l'édition de 1700. But if they are not, never spare him for his pain, c'est-à-dire l'insistance sur la réception, l'insistance sur le sens construit par le lecteur qui considère que le texte est tout à fait ne vaut rien. Alors que dans la première ponctuation, ce qui est détaché, c'est le wistoil, c'est-à-dire de nouveau une emphase qui est mise sur l'activité de l'écriture et la présence de l'auteur dans le texte. Et le troisième élément de transfiguration, comme vous le voyez immédiatement, qui est la dramatique modernisation de la ponctuation dans les éditions modernes, il n'y a plus aucune lettre capitale, sauf les capitales du début de vers, mais toil, scenes, pains, commiseration, dullness, and deliberation ont perdu toutes leurs capitales. Et alors là, je ne rentre pas dans le détail de la démonstration, mais Mackenzie montre qu'il y a à la fois une personnification de ces entités abstraites, et qui peut jouer sur un répertoire de ces personnes d'abstraction, et aussi que c'est un des ressorts pour l'ironie de Congreve. Et que donc, du coup, en supprimant ces capitales, on perd cet effet visuel et cet effet sémantique qui est celui de référence à des jeux d'abstraction, dullness and deliberation, ou à l'ironie qui est impliquée par cette capitalisation de mots qui, normalement, ne devraient pas en avoir. Par exemple, « dullness », l'ennui qui est créé par le texte. Donc, ce que veut montrer Mackenzie, c'est que la forme typographique est le résultat ou implique une relation au texte qui veut y lire une sorte de retrait par un auteur lui-même de sa présence dans ce texte et d'une attribution de la construction du sens entièrement du côté de la réception. Alors que, pour Mackenzie, et confirmé par le fait que Congreve va être impliqué directement dans l'édition de 1709-1710 de ses œuvres, ce sur quoi veut porter l'attention Congreve, c'est sur la présence de l'auteur, cette sorte de présence insistante sur le travail, les peines prises, et en même temps, du coup, de développer l'ironie par rapport à une lecture qui ne serait pas capable de reconnaître cette deliberation et l'identifiant immédiatement avec la dullness, avec un ennui, mais qui est un ennui créé par le lecteur, qui n'est pas un ennui qui est inscrit possiblement dans le texte. Et donc, du coup, ce que montre Mackenzie, et il conclut cette analyse avec cet aspect-là, qui est qu'il n'y a pas de séparation entre une critique textuelle qui est attentive à la matérialité du texte et une critique littéraire qui s'intéresse à la signification ou aux significations du texte. La signification que Congreve voulait que son texte reçoive ou la signification historiquement à distance, contresens sans doute, mais en même temps qui a sa réalité historique, qui est la signification que Wimsatt et Birdsley ont donnée à ce passage. Il y a un dernier élément qui est important, c'est le « scenes », à la fin du premier vers, « he wrote the following scenes », qui n'est pas simplement le fait du staging, le fait qu'on change de lieu, mais qui est ce concept essentiel de transformation du mode de présentation des textes, mais peut-être aussi de mode de composition des textes de théâtre, c'est-à-dire sur la base de l'unité de la scène qui est donnée par la coprésence sur la scène, comme lieu, des personnages, ce qui explique les entrées et les sorties qui font et défont les scènes. Et il y a donc là un élément clé de la dramaturgie de Congreve, comment constituer la scène et comment la rendre à la fois évidemment visible aux spectateurs par les mouvements des acteurs et aux lecteurs par la claire articulation des scènes les unes après les autres avec des numéros, des ornements et la liste des personnages pour identifier chacune d'elles. C'est un exercice, je crois, très brillant, mais qu'on peut reprendre à notre compte, c'est-à-dire la nécessité, lorsque l'on cite un texte, de rendre explicite, chacun peut citer comme il le veut, mais de rendre explicite les protocoles de la citation, le texte qui est cité et les raisons pour lesquelles il est cité dans cet état ou dans un autre état. Parce qu'on touche là, je m'approche un peu de la conclusion, je dirai un mot sur le texte, le dernier texte de ce livre. On touche là à un point que Mackenzie a formulé là aussi dans une sentence, on pourrait dire, que j'ai souvent citée, qui est devenue un peu emblématique, c'est-à-dire que les textes de nouveaux lecteurs créent des textes nouveaux dont les nouvelles significations dépendent directement de leur forme. C'est-à-dire établissant un triangle entre le texte, la forme du texte et le public des lecteurs. Et montrant, on peut jouer comme sur un diagramme, comment la modification de l'un ou l'autre, ou des trois à la fois, peut créer des situations nouvelles. C'est-à-dire, par exemple, pour un même texte de nouvelles formes typographiques peuvent créer un nouveau public. Et ça a été la base de beaucoup de travaux sur les appropriations ou adaptations pour le plus grand nombre de lecteurs de textes classiques, mais transformés typographiquement. On peut montrer, comme il l'a fait Congreve, que la nouvelle forme typographique peut transformer le statut du texte, par exemple là, en lui donnant, à l'inverse de la popularisation, la dignité d'un classique, et donc du coup de modifier la relation de lecteur, et parmi ses lecteurs, l'auteur lui-même, avec le texte. C'est cette formule « New readers make new texts and that their new, and the new meanings are a function of their new forms. Forms text,
meanings,
et readers définissent, me semble-t-il, un espace de travail dans lequel on peut situer beaucoup des études empiriques et particulières que l'on est amené à mener. Alors là, et du coup, on voit aussi que s'il emploie le terme sociologie des textes, il ne faut pas penser que c'est pour définir une sorte de sociologie qui a pu être celle d'une distribution en quelque sorte homogène entre des publics ou des communautés de lecteurs et d'autre part des catégories de textes, comme s'il y avait des divisions sociales qui, dans le monde social, étaient reproduites dans le monde textuel. Ce que veut montrer Mackenzie avec cette phrase, où il y a des new readers, des new texts et des new forms, c'est une circulation, c'est-à-dire une capacité à créer des divisions ou des familiarités par les textes et leur forme matérielle. C'est aussi l'idée que la mobilité, qui peut être celle des publics, est en même temps d'abord celle des textes eux-mêmes qui passent d'une langue à une autre, d'un genre à une autre, d'une forme à une autre. Et je crois que la critique textuelle, littéraire ou l'histoire socioculturelle a fait un profit de cela par l'attention portée contre une sorte de hiérarchie figée des publics ou contre une sorte de hiérarchie figée des genres, à porter aujourd'hui l'attention sur ces mobilités et ces malléabilités, malléabilité des textes et mobilité des partages socio-culturels. Alors, le dernier texte de cette le livre, non pas des premières éditions des Panizzi Lectures, mais de la reprise dans le Cambridge University Press, et qui était consacré, comme je le disais, au traité de 1842, si je me souviens bien, par lequel les chefs maoris abandonnent la souveraineté sur les îles, les deux îles du nord et du sud de la Nouvelle-Zélande, peut paraître un peu incongru, et en son lieu de publication qui était le premier lieu de publication de cet article avait été la Bibliographical Society de Londres, avait une leçon qui, je crois, est importante à rappeler. Il avait été publié, oui, par The Library, qui est l'organe de la Bibliographical Society, en 1984 et repris ensuite, avait une dimension qui voulait lier des questions directement, on pourrait dire, historiques, politiques, sur des formes de domination, avec des ambiguïtés, des contresens, des instabilités dans la production de la signification des textes. Alors, c'était un lien direct qui existait entre l'engagement civique de Mackenzie, qui a toujours été défenseur des droits des Maoris en Nouvelle-Zélande, et en même temps avec sa compétence technique, qui était de montrer que ce traité de 1840 avait été compris profondément, d'une manière profondément différente par les chefs maoris et par les autorités britanniques, dans la mesure où ce qui était compris de manière différente, c'était ce qui avait été installé dans la Nouvelle-Zélande du début du XIXe siècle, c'est-à-dire la transcription alphabétique de la langue maori, qui passe donc à un statut écrit, une campagne d'alphabétisation, mais menée en langue maori, pas en langue vernaculaire, par des missionnaires des églises anglaises, et l'introduction de l'imprimerie, avec la première impression en 1830, faite en Nouvelle-Zélande, et en 1837, le premier Nouveau Testament maori tiré à 5000 exemplaires par l'imprimeur William Collins, sur une presse Stanhope qui était arrivée en 1834. Et donc, cette entrée dans l'écriture, dans l'alphabétisation et dans l'imprimerie rapporté à quelques années, a créé une profonde mutation de la culture maori, mais en même temps a créé une profonde divergence dans la manière de la dans la relation avec l'écrit. Et Mackenzie le montre, c'est aussi confirmé par d'autres études qui ont fait une sorte d'ethnologie de l'écriture et sa pénétration dans des sociétés colonisées ou dominées par les métropoles occidentales. D'abord, le fait que le livre, en particulier la Bible, reprend en charge dans cette culture sa valeur sacrale d'objet, et du coup que le texte est second par rapport à la présence de l'objet rituel, ce qui n'a rien de proprement maori, puisqu'on a pu montrer comment des études sur l'Europe des XVIe, XVIIe siècles, y compris l'Europe protestante, utilisent le texte sacré de la même manière, c'est-à-dire par sa force de protection et par sa seule présence au plus près des corps, les corps de la femme qui accouche, le corps de l'individu malade, a une capacité de protection et de guérison. Mais évidemment, cette valeur-là d'objet investi de sacralité en lui-même est particulièrement fort dans la relation des Maoris avec ces nouveaux imprimés, en particulier, au premier chef, la Bible. La lecture aussi liée plus étroitement que dans les civilisations occidentales du XIXe siècle, avec la mise en mémoire des textes, comme si là aussi on faisait rejouer dans ce contexte de la domination coloniale ce qui avait pu être à l'époque ancienne ou médiévale, ce qui est décrit par les arts de mémoire, c'est-à-dire une lecture qui vise fondamentalement à la mise en mémoire du texte et qui en quelque sorte se détache du texte, à la fois la mémoire comme rétention de bibliothèque entière et la mémoire comme lieu de composition mentale des nouveaux discours. Et on pourrait tracer une histoire de cette relation entre les arts de la mémoire de la rhétorique ancienne et les arts de la mémoire étudiés par Mary Carr Wouters pour le monde médiéval occidental et les instruments qui vont décharger progressivement la mémoire de ce rôle à la fois de magasin ou de tablette de cire, qui était la métaphore ancienne, et de ce lieu d'être le lieu de la composition mentale pour, par exemple, avec la technique qu'on a souvent évoquée ici, des lieux communs, des cahiers de lieux communs, des livres imprimés de lieux communs qui sont en quelque sorte une prothèse par rapport à cette mémoire. Mais dans le cas de l'appropriation maori de la culture écrite et donc de la lecture faite à haute voix ou une écoute, il y a cette centralité de la mise en mémoire des textes qui doivent être su par cœur et récités. Et le plus fondamental pour l'interprétation des misunderstandings du traité de 1840, c'est le fait que dans cette culture, même si l'écrit est présent dans toutes ses formes, alphabétisation, transcription de la langue, présence du livre, c'est le fait que les conventions orales restent plus puissantes et plus essentielles que la valeur du texte écrit. Et ce qui explique à la fois pourquoi que le fait de la signature est moins important que le fait des commentaires oraux qui, autour du traité de Waitangi, ont créé cette ambiguïté, et peut-être voulu évidemment par les colonisateurs anglais, sur le terme qui était traduit par « sovereignty », donc une délégation de pouvoir, une substitution de pouvoir, et qui, semble-t-il, ne désignait dans la langue maori que l'administration, sans que la souveraineté des chefs ait été du même coup abolie. Kawanatanga est le mot dans le maori. Et donc, il y a là une première ambiguïté dans la traduction, mais qui est renforcée par le fait qu'il est tout à fait vraisemblable qu'autour de ce texte, signé par les chefs maoris, de multiples transactions orales avaient eu lieu, mais que la brutalité de l'écrit fait disparaître et va à identifier à un transfert de souveraineté. Alors, vous voyez pourquoi l'enjeu civique existe derrière l'enjeu philologique. C'est le fait que souveraineté ou administration, ce n'est pas la même chose, et que pour la défense contemporaine des droits des Maoris, en particulier sur les terres, il y a là une différence tout à fait essentielle. J'avais pu me rendre compte à l'occasion d'un colloque qui avait été tenu à la mémoire de Mackenzie à Wellington, qu'il y avait eu de profondes révisions, enfin à la fois profondes mais pas décisives révisions de son interprétation, dans la mesure où d'une part sur le traité de 1840 il y avait eu des recherches importantes, mais surtout qu'un certain nombre d'historiens, y compris des historiens maoris parmi eux, avaient porté l'attention sur le fait que peut-être ce traité de 1840 était le début d'un processus politique qui était celui du transfert de souveraineté, mais que l'essentiel se jouait dans les années 1860, lorsque de multiples procès ont eu lieu à propos de la propriété des terres. Donc, un décalage chronologique, mais qui répétait la démonstration de Mackenzie. Pourquoi ? Parce que dans ces procès sur la propriété des terres, les titres écrits l'emportaient toujours sur les revendications de propriété fondées sur des traditions orales. Et du coup, que les rapports de pouvoir inégaux, qui n'étaient plus là simplement d'autorité politique, mais de propriété économique, avaient été fondés sur le déni de pertinence des tradition de la mémoire collective et sur à la fois l'utilisation de l'écrit comme preuve et de l'écrit comme procédure qui avait dépossédé les communautés maoris progressivement de leurs droits ou de leurs propriétés sur le territoire. Et on voit que ici, on a la rencontre, je vais terminer avec ça pour qu'on ait le temps de discuter, la rencontre entre la perspective de Mackenzie qui est située fondamentalement à l'intérieur du monde de l'imprimé et une perspective qui a été proposée à l'intérieur du monde du manuscrit par Armando Petrucci et qui est de créer une claire distinction, même s'il y a une interrelation permanente, entre ce qui peut être désigné comme le pouvoir de l'écriture et le pouvoir sur l'écriture. D'un côté, la confiscation du pouvoir sur l'exercice de l'écriture et qui peut être lié, ce pouvoir sur l'écriture, au déni de la capacité à écrire de telle ou telle partie de la population, durablement les femmes, qui doivent savoir lire mais non pas écrire, selon les modèles de la pédagogie ancienne. Elles doivent savoir lire pour pouvoir transmettre, comme Anne le faisait à la Vierge, l'éducation, l'enseignement aux enfants. Mais l'écriture, par le degré de liberté et d'autonomie qu'elle représente, est considérée comme suspecte et dangereuse. Ou bien traditionnellement les mondes populaires, et de là toutes les politiques qui réduisaient, par exemple menées par la monarchie française, qui réduisaient les possibilités de scolarisation primaire pour le monde paysan ou pour le monde artisanal, avec la même dichotomie, une nécessité ou une utilité de la compétence de lecture et une grande méfiance, voire une hostilité à la diffusion de la capacité d'écriture. Donc on a un pouvoir sur l'écriture qui peut se traduire par ce refus d'entrer en écriture de populations dominées. Ce contrôle sur l'écriture peut être aussi le contrôle sur l'écriture administrative, l'écriture politique ou les écritures exposées, les écritures qui occupent l'espace urbain et qui sont sous le contrôle de qui les fait peindre ou graver. Donc il y a toute une voie à suivre sur cet aspect du pouvoir sur l'écriture qui sous-entend à la fois une domination sur des espaces graphiques et qui peut sous-entendre une limitation ou une ségrégation sur la diffusion de la capacité à écrire. On peut d'ailleurs écrire l'histoire de l'alphabétisation des sociétés de l'Europe moderne comme étant la conquête de cette compétence d'écriture par ceux et celles à qui elle était déniée. Et l'entrée en écriture des femmes ou les conquêtes de l'écriture par les milieux populaires serait une voie de poursuivre cette entrée en écriture contre un modèle dominant qui la veut réserver. De l'autre côté, le pouvoir de l'écriture, c'est celui que confère à chaque individu qui s'empare de cette compétence de lecture, mais plus encore d'écriture, ce pouvoir de transformation de la relation aux autres, de la relation aux autorités ou de la relation à soi-même. Et de là, tout le socle qui est donné pour les études des écritures autobiographiques ou des écritures qui peuvent transformer la présence au monde, en particulier dans le monde social. Et cette tension au pouvoir de l'écriture, pouvoir sur l'écriture, se rejoue à différents moments dans différentes modalités. Elle est au cœur de la perspective, de la problématique de Armando Petrucci, mais on la voit et finalement reprise par une étude comme celle que Mackenzie avait consacrée au traité de Waitangi, cette idée d'une perte de la souveraineté par l'exercice d'une violence symbolique qui est liée directement à une distance culturelle dans une relation de domination. Alors je pense que cette perspective que j'ai voulu évoquer aujourd'hui, elle est évidemment celle qui pour moi est la plus proche de beaucoup de travaux que l'on mène ici et que mènent beaucoup de collègues qui sont présents ce soir, elle modifie évidemment le rapport avec les textes, mais elle modifie surtout nos pratiques les plus immédiates et les plus menues dans qu'est-ce que citer, quel texte doit-on citer, comment le citer, dans quelle forme graphique, et quand on étudie quelques textes anciens ou contemporains que ce soit, la prise en compte des effets de sens de la forme est tout à fait essentielle, mais mène évidemment à passer de l'histoire du texte à l'histoire de son édition, à repérer les interventions sédimentées, contradictoires ou convergentes de tous ceux qui sont impliqués dans le processus de publication, à restituer un rôle de la lecture et du lecteur, non seulement en rapport avec les contenus textuels, mais avec aussi les formes matérielles. Et peut-être la dernière interrogation, elle est sur le paradoxe qui est représenté, je crois, aujourd'hui par les possibilités de la numérisation. Ce qui m'a, donc la construction à côté des bibliothèques de papier et de mur, des bibliothèques numériques. Parce qu'il m'a semblé qu'il y a là un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est qu'avec le monde numérique ou la conversion numérique des textes imprimés, plus qu'auparavant, est possible la perception de la pluralité, de l'instabilité, de la mobilité des textes. Puisque vous pouvez faire apparaître devant l'œil du lecteur une multiplicité, non seulement d'éditions, voire d'exemplaires d'une même édition, et immédiatement est rendue visible cette donnée que la tradition des éditions imprimées qui publient un texte et un seul avait effacée. Et donc on est devant une possibilité de perception d'une donnée essentielle du monde textuel ancien, qui était plus limité dans le cas des éditions imprimées, mais avec ce premier paradoxe, c'est que le texte est donné dans une forme profondément étrangère à la forme matérielle dans laquelle il ou ils, au pluriel, ont été lus, puisque l'écran n'est pas un codex, la page illuminée n'est pas une page sinon métaphoriquement, et donc on a une distance à l'intérieur de la proximité. Et ça, c'est le premier paradoxe. Et on peut dire, à l'inverse, que les éditions imprimées qui continuent à être, heureusement, publiées des textes, l'édition de Molière dans la Pléiade par Forestier, le Quichotte par Francisco Rico, que lorsqu'elles se donnent dans la forme imprimée, recréent une continuité entre lecteurs d'aujourd'hui et lecteurs du passé, parce que l'un et l'autre, ils lisent un livre qui a la même grande structure morphologique. C'est un codex. Il y a des cahiers, il y a des feuillets, il y a des pages, il y a une reliure. Et donc, il y a une immédiate relation qui est établie entre le lecteur de 1605 ou le lecteur de 1682 pour l'édition de Molière et le lecteur d'aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est évidemment que cette forme qui est plus familière dans la continuité de l'objet est celle qui peut éloigner aussi le plus de la compréhension de cette historicité des textes anciens, puisque d'une part, elle choisit un texte et un seul, et donc efface cette pluralité des textes pour la même œuvre, sauf édition savante, mais qui n'ont pas la circulation pour le lecteur le plus immédiat ou le plus nombreux, le lectorat le plus nombreux. Et d'autre part, pour créer un texte qui soit lisible par le lecteur d'aujourd'hui, elle implique la modernisation de nombreux éléments à l'intérieur du texte ancien. Alors je pense que c'est cette double tension, pluralité des textes rendus visibles numériquement, mais en même temps sous une forme d'inscription du texte profondément éloignée du codex, ou inversement, édition dans des codex imprimés qui créent continuité avec le passé, mais avec la mise en édition d'un texte qui parfois n'a jamais été lu par personne. Il a été établi par l'éditeur contemporain, mais peut-être qu'aucun lecteur du passé n'a jamais eu ce texte-là face à lui, crée, je pense, les défis fondamentaux qui lient directement ce que j'ai essayé de discuter aujourd'hui, non seulement avec notre pratique de commentaires, d'analyse, d'interprétation, mais aussi avec la pratique de l'édition et finalement indirectement avec nous-mêmes, puisque finalement nous utilisons le plus immédiatement, le plus spontanément, les textes dans leurs éditions imprimées contemporaines ou maintenant dans leurs éditions numériques, mais sans nécessairement toujours mesurer les questions qui sont posées par chacune de ces formes de publication et de transmission des textes. Alors voilà, c'était le panorama aujourd'hui sur ce que je voulais montrer, où après avoir centré l'attention sur des fonctionnements linguistiques ou sur des négociations esthétiques, aujourd'hui l'attention était évidemment focalisée sur les formes matérielles du discours. Bon, je serais très heureux d'avoir des réactions ou des questions ou des objections sur ces proposition que j'ai repris évidemment à travers le commentaire de l'œuvre de Mackenzie, mais qui, je crois, enfin pour beaucoup d'entre nous, a été un apport tout à fait considérable, parce qu'il a permis à la fois de renouer un lien dans des traditions qui en étaient peu familières avec ce contre quoi, dans un sens, Mackenzie combat, mais en même temps dont il est l'héritier, c'est-à-dire les techniques de la bibliographie matérielle, et d'autre part, a permis de faire tomber des frontières classiques, critique textuelle, critique littéraire, histoire socioculturelle, histoire de la littérature, sans que les objets soient tous confondus dans une sorte d'indistinction, mais néanmoins, dans la perspective analytique, le fait de retenir des manières de faire qui ne respectent plus ces anciennes distinctions disciplinaires.